affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. C'est fou quand même ce besoin que nous avons tous de mettre des gens dans les cases. Ainsi, si je vous dis Angelo Rinaldi, vous serez nombreux à répondre « critique littéraire » en ajoutant pour certains d'entre vous l'adjectif « critique littéraire redouté », ce qui serait injuste. Vous serez également nombreux à le définir comme « romancier », en précisant probablement « romancier de la mélancolie », ce qui est plus juste. Mais vous serez certainement moins nombreux à y ajouter la qualité de dramaturge. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien dans cette qualité de dramaturge que nous avons la joie d'accueillir Angelo Rinaldi, qui a publié très récemment aux éditions Pierre-Guillaume de Roux sa première pièce de théâtre, « Laissez-moi vous aimer ». « Laissez-moi vous aimer », c'est le titre de cette pièce. C'est aussi le titre d'une chanson de Tino Rossi, un succès des années 30. Et c'est peut-être, plus fondamentalement, la supplique de la condition humaine elle-même. Par-delà les statuts sociaux, les cases dans lesquelles on met les gens, les cases que l'on se choisit, les étiquettes que l'on respecte ou que l'on nous colle. Angelo Rinaldi, bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française, donc vous êtes ici parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi soudainement du théâtre ?
Je vous remercie de votre hospitalité, dont j'ai déjà profité. Écoutez, je suis moi-même étonné, mais je crois avoir trouvé par une sorte d'auto-analyse, une explication. J'avais publié un roman, j'ai perdu un ami d'enfance qui est très lié à ma famille et qui est mort assez rapidement et presque dans mes bras. Et ceux de sa femme. J'en ai conçu une telle tristesse que je crois que cette comédie a été une réaction contre cela. D'autant plus que je suis presque jamais au théâtre parce que je travaille ailleurs. Mais je suis un grand lecteur de pièces. Je l'ai toujours été. Par exemple, dans les lectures adolescentes qui nous forment ou nous déforment, je me souviens de l'éblouissement que j'ai ressenti quand j'ai lu les personnages en quête d'auteur de Pirandello. Et quand j'ai lu les pièces d'Anouilh, quand j'ai lu les pièces de Pinter, je suis la génération qui a eu une vingtaine d'années avec Pinter, l'escalier et le reste. Mais je n'envisageais pas d'écrire, ça me semblait autre chose qui n'était pas à ma portée. Et puis je me suis laissé engager, et tenez-vous bien, par une amie, journaliste et critique de théâtre, qui a été secrétaire d'Anouilh, je vais vous dire. Et qui m'a dit, mais vous devriez. Je lui ai parlé vaguement de la pièce. Et voilà, alors c'était très drôle parce que elle était en province, en vacances, et je lui téléphonais les répliques. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de celle-là ? Oh, très bien, on ajoute, voilà. J'ai encore envie d'ajouter des choses, etc. Voilà comment, à mon corps défendant, presque, ou à mon corps défendu, ou mon âme, j'ai écrit cette pièce de théâtre en changeant de vitesse, bien entendu. Les romans, pour moi, sont ce que j'ai commis. Ils sont des romans assez lents, où j'ai l'ambition folle, démesurée, téméraire et peut-être idiote, de faire en sorte que la phrase soit comme une espèce de caméra qui englobe à la fois le propos du personnage, le décor où il se trouve, la réflexion qu'elle fait. Et de là, au théâtre, il faut aller vite. Et il est vrai que la vitesse, je la connais aussi, je l'ai connue dans le journalisme simple. Je dis simple, pas de façon péjorative, mais il faut aller très vite. Et à ma grande surprise, ça, j'ai changé sans m'en apercevoir et en prenant le pli. Voilà. Comment c'est arrivé, cette surprise que je me réservais à moi-même sans le savoir.
Donc le théâtre comme antidote à la tristesse, ça nous l'avons compris. Mais on a le sentiment aussi que dans le théâtre, contrairement peut-être au roman, le personnage est beaucoup plus présent, il n'y a pas de narrateur.
Oui.
Donc le personnage est là et il s'impose. En l'occurrence, on pourrait être tenté, on a presque envie d'entendre que ce personnage de la comtesse qui est central
oui.
dans cette pièce préexistait dans votre esprit et s'est imposé à vous. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, il s'est imposé à moi en rivalité avec, ou en opposition plus exactement, avec la femme du peuple qui lui sert de domestique. Voilà, c'est deux mondes, hein, le monde du château et le monde de l'office.
Effectivement, de ce point de vue, la pièce est presque dialectique.
Oui, je crois.
Toutefois, ce sont des personnages très incarnés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Car après tout, au-delà de l'intrigue qui a son importance,
oui.
ce sont surtout les personnages, leur personnalité qui s'imposent au lecteur. En tout cas, moi je l'ai reçu comme ça. Vous pouvez nous présenter ces deux personnages ?
La comtesse est centrale, elle représente sa classe sociale qui existe toujours avec ses préjugés, mais quand même une liberté d'esprit assez grande par rapport à son milieu qu'elle voit tel qu'il est, il me semble. Et puis elle aime les chats. Alors quelqu'un qui aime les chats ne peut pas être tout à fait mauvais, etc. Et j'ai pu ainsi décrire la fin d'une chatte. Enfin, la comtesse a un mari qui est un loufoque et un imbécile. Et elle n'a eu qu'un amour, que deux amours, sa chatte, qu'elle a fait empailler d'ailleurs, et son fils, qui est sa principale passion. Et cette passion l'a conduit à une certaine audace, c'est-à-dire que pour se débarrasser de sa belle-fille, les belles-mères veulent toujours se débarrasser des belles-filles, elle va le pousser dans le lit d'un garçon d'écurie. On ne peut pas faire mieux.
Oui, ça fait écho, dit-on, dans les temps passés, certaines mères pouvaient être soulagées en apprenant l'homosexualité de leur fils, en se disant, mon Dieu, comme ça, je vais le garder plus longtemps.
Oui, oui, je vais le garder. Je vais le garder toujours. Et bon, voilà, une réaction... de mère qui doit se trouver, que j'ai vu d'ailleurs. Ça l'a conduit à s'affranchir de sa classe et de sa morale. Enfin, château, le curé qui vient, enfin, etc. Et le mari en chaise roulante.
Elle porte un regard extrêmement dur sur ses classes. C'est une forme d'aristocratie déjà un peu bourgeoise,
oui.
qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, donc elle reste encore très surannée, attachée à l'étiquette, on n'est pas du tout dans un monde bling-bling.
Mais vous savez, ce monde, l'avantage de notre métier de journaliste, cher ami, c'est que nous traversons beaucoup de milieux. Et ce monde continue d'exister. Je ne pourrais pas vous dire ni vous lire une lettre que je vous trouverai dans cette grande enveloppe et qui est d'une aristocrate à château, femme sympathique d'ailleurs. Il existe encore. Il existe encore. Avec, vous n'avez qu'à regarder le résultat des élections. Enfin, c'est très simple. Si on veut savoir où est la société, on la voit.
En tout cas, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait dans un esprit start-up nation, je pense, hein, quand même.
Oui.
Ce que vous décrivez. Ce que je veux dire par là, c'est que la comtesse porte un regard extrêmement mordant sur son milieu, sur les apparences qu'il faut respecter, sur l'étiquette,
oui.
et admet qu'elle en a souffert. On a le sentiment que dans le face-à-face avec sa domestique, en réalité, elle peut enfin se livrer et devenir elle-même.
Absolument. Elle le fait grâce à sa domestique, mais vis-à-vis de laquelle il entre peut-être un petit mépris de classe. Quand les gens sont inférieurs, on peut te leur dire, ça n'a pas d'importance. Et ça, je l'ai observé plusieurs fois chez des gens qui ont dit à me présumer inférieur des choses qu'ils ne disaient pas aux autres. Quelle importance !
Il y a peut-être aussi quelque chose qui les rapproche. Vous avez parlé de l'amour fou, viscéral de la comtesse pour son fils, son seul amour avec sa chatte Florina.
Mais la domestique aussi a un amour viscéral pour son fils.
Exactement, ce que je veux dire, c'est ça qui les rapproche.
C'est ça qui les rapproche.
De l'ordre de l'anthropologie. Voilà.
Voilà. Elles n'ont qu'un amour, c'est leur fils. Le fils de la domestique a été fait au hasard des bars et des guinguettes, ce qui arrive très, très souvent, surtout à l'époque, et aujourd'hui encore. Mais c'est le même... c'est peut-être parce que je pense que l'amour le plus profond... Je pars peut-être d'une expérience propre. L'amour le plus profond, c'est l'amour d'une mère. C'est celui qui ne changera pas. J'en ai la conviction, peut-être ai-je pensé à la mienne, qui évidemment était une femme seule, enfin bref, je veux pas raconter Dickens. Et j'ai vu en Corse des femmes absolument admirables. Admirable dans la pauvreté, admirable dans la lutte quotidienne, admirable dans le rapport avec les enfants, enfin, etc. En somme, le pélican femelle. Voilà. Et j'ai donc cette conviction que je découvris en moi-même en écrivant la pièce. Je n'aurais pas tout perdu.
Et ces sentiments, eux, transcendent les barrières de classe ou de position sociale.
Oui.
Ce qu'on ressent. Que cette posture de mère, cet amour fou, viscéral, transcende totalement
la
toute condition de classe sociale.
Absolument.
C'est quelque chose qui vient de plus loin, qui renverse tout, y compris les tables.
Absolument. Ce qu'ignore d'ailleurs le comte de son mari, qui... qui est un vague libertin de province dont il n'y a rien à dire, sinon qu'il a reçu la médaille militaire parce qu'il est tombé dans l'escalier. Voilà, c'est tout.
Il est tombé dans les escaliers et il laisse croire qu'il aurait été blessé au chemin des dames ou quelque chose de genre là, c'est ça ?
Oui, il n'est pas blessé du tout au chemin des dames. Il a été blessé au chemin du bistrot.
Dans ce jeu social, on découvre aussi que chacun a ses blessures. C'est-à-dire que même la comtesse, son milieu social présente évidemment beaucoup d'avantages. Elle est riche, elle peut intriguer pour protéger tel ou tel membre de sa famille, de telle ou telle obligation, par exemple militaire.
Oui.
Elle peut faire ou défaire des élections avec plus ou moins de succès.
Oui.
Agir pour les intérêts de sa classe et de sa famille. Mais toutefois, elle traîne un certain nombre de blessures qui sont profondes.
Et l'enfance.
L'enfance, le manque d'amour.
Le manque d'amour. Et les parents qui vont au bal et qui oublient de venir la saluer quand ils rentrent. Et ça, un enfant ne peut pas s'en remettre.
Et quelque chose auquel elle se confronte avec... beaucoup de courage et de drôlerie, car ce qui la caractérise, c'est probablement la lucidité,
oui.
Le courage, une forme de drôlerie. Quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'elle se croit ou elle se sait laide.
Oui, elle se croit laide et elle en parle avec assez de lucidité. Tandis que son fils est beau. Je ne dirais pas que c'est un élément déterminant de son amour, ce serait faux. Mais je crois qu'elle parle des femmes et des coquettes qui l'entourent, y compris sa chère belle-fille, Edwige, avec beaucoup de lucidité.
Ce que j'en ai reçu, c'est que finalement, dans la vie des gens, il y a les déterminants sociaux, il y a les statuts
de classe. Des déterminants qui valent pour tous les milieux.
Voilà. Mais il y a aussi des blessures intimes qui nous permettent d'aller jusqu'au... probablement au cœur de la nature humaine, des espérances et de ce qu'on souhaite et ce qui fait le bonheur ou non des individus.
Oui. Si on n'a pas été assez aimé par ses parents, père, mère, nous sommes comme, en entrant dans la vie, comme un avion qui traverse la piste d'atterrissage, mais qui n'a pas assez de kérosène pour décoller. Et on voit des réussites, au sens social du terme, qui ne peuvent s'expliquer que par le violent amour des parents. Je me rappelle fort bien un garçon de ma classe qui était ni beau ni laid, dont la femme, quel lapsus révélateur, dont la mère était plieuse de journaux. C'est-à-dire qu'elle pliait les journaux, le journal local d'annonce légale, etc., à 4 heures du matin. Je n'ose vous dire comment, quelquefois, elle finissait le mois, mais vous l'imaginez. Eh bien, ce garçon a été tellement aimé, je le revois encore avec son blazer, toujours propre, élégant. Ce garçon est quand même devenu professeur de faculté. Il a fait ensuite une brillante carrière. Il arrive parce que il était le fruit de l'amour de hasard ou simplement d'une passion. Il a été si violemment aimé par sa mère que lui a eu le kérosène pour s'élever et atteindre l'altitude de vol. Voilà. Et ça m'a frappé. Et, oh non, non, moi, j'aurais pas juré qu'il... Il a eu.
Cet amour-là me fait plus penser à celui d'Augustine, la domestique, car oui. Si on compare ces deux amours de mère, l'amour de la comtesse pour son fils semble être un amour un peu étouffant. Elle veut le conserver auprès d'elle.
C'est génitrix. C'est génitrix. Elle veut le conserver auprès d'elle. Tandis que la femme du peuple...
C'est le contraire.
Elle espère que tout se déroulera naturellement, suivant le schéma classique.
Et qu'il va s'élever.
Voilà. Ah non, la comtesse... La comtesse enveloppe son fils, enfin, etc., au point de franchir la ligne rouge de la morale de son milieu.
Oui, alors qu'Augustine cherche l'autonomie et l'émancipation de son fils.
Oui, oui, oui. Ah oui, elle l'espère, même. Voilà. Mais bon, le soubassement est identique, hein. Quelles que soient les modalités, de toute façon, le château, le domaine et le reste assurent au fils de vivre tranquillement et d'avoir une vie autonome et indépendante, enfin, etc.
À l'abri du besoin, en tout cas.
Hein ?
À l'abri du besoin, en tout cas.
Largement à l'abri du besoin.
Alors, la règle des trois unités est respectée dans la pièce, si je ne me trompe pas. Parlons un petit peu de l'époque et du temps. Nous sommes donc, on l'a dit, en 1938, et en toile de fond, l'orage
prépare. Il y a les accords de Munich qui se dessinent, qui sont une capitulation de la démocratie devant le nazisme, et devant le pacifisme qui a atteint à peu près toute la nation, il faut bien dire. Les gens vivaient avec le souvenir d'une grande boucherie où la patrie avait failli sombrer, corps et bien. Et où circulait dans les rues encore, et même encore dans mon enfance, il y avait la loterie des gueules cassées. Les gens disaient plus jamais ça, et pour d'autres... Et pour cette partie d'élite de l'argent, le Front populaire avait inspiré une peur terrifiante. Ce qui expliquera une partie de la funeste collaboration. Tout plutôt que 8 jours de congé à la bonne. Je résume, mais à peine. Enfin, bon, et s'il n'y avait pas eu, je le dis, ce grand fou génial qui était Victor Hugo. Encore un lapsus. Je confonds Victor Hugo avec le général de Gaulle. Eh bien, c'est très bien, parce que ce sont les mêmes personnages et les mêmes génies. Mais il était seul. Il a sauvé l'honneur avec quelques pêcheurs de l'île de Sein qui pourraient être les parents de Messie. Donc les gens, pour des raisons diverses, les gens ne voulaient pas, et ils ont accueilli Pétain avec sa promesse de régression, hein, de révolution nationale, ce qui était un paradoxe. Il n'y avait aucune révolution, c'était une régression nationale, avec faveur.
Oui, avec soulagement.
Hein?
Avec le soulagement aussi, ce qui est surtout présent dans la pièce.
Oui.
C'est le... Voilà, plus jamais ça, la der des der, il faut que ça reste la der des der.
Oui.
Et les deux mères ont peur parce que le fils d'Augustine est mobilisé, et la crainte qui revient au fil du temps, c'est est-ce que... Il ne pense même pas à une défaite, d'ailleurs, à ce moment-là. Il pense que la guerre serait gagnée contre l'Allemagne, mais sa crainte, c'est est-ce qu'il va avoir froid? Est-ce qu'il fait froid à Berlin? Est-ce que je dois lui tricoter des caleçons?
Oui.
Et très finement, vous amenez cette...
La guerre a été perdue par l'état-major, nous le savons tous. Mais il y avait aussi cette résignation, cette peur. Un historien anglais a calculé que les prisonniers, les Français, étaient du même nombre que les tués de 14-18. Comme si la nation, au fond d'elle-même, n'était pas résignée à faire un second sacrifice égal. Donc les raisons sont très complexes. Raisons politiques, peur du Front populaire, peur qu'il n'aggrave, si je veux dire, ses réformes, souvenirs douloureux, famille décimée. Bah, par exemple, j'ai 3 grands-oncles qui sont morts à 20 ans, entre 20 et 24 ans, durant la guerre de 14-18, et dont l'un est au carré du cimetière du Père Lachaise. Voilà, donc tout s'enclenche, laissez-nous la douceur de vivre, qui est d'autant plus agréable qu'elle se déroule dans un château.
Et qu'elle est remplie de cet esprit français, malgré tout, qu'il y a... Au-delà de ce renoncement qu'on sent, de cette fatigue de l'être et d'une société qui s'affaisse un peu sur elle-même, on le ressent dans votre pièce, oui, par le fait que la notion de patriotisme, par exemple, est à peu près absente, puisque la société est tellement divisée en classes, en castes qui s'observent, qu'on ne voit pas très bien, effectivement. La comtesse est obnubilée par la crainte que la commune passe aux mains des rouges.
Oui.
Elle se dit heureusement, il y a quelques
marins.
Il y avait de vrais rouges à l'époque. Mais bon, elle se dit que malgré tout, il reste quelques maréchaux en réserve. Du côté d'Augustine, ce qui domine, c'est la crainte d'une nouvelle boucherie, on le comprend bien. Mais voilà, on n'est pas dans une projection de dynamique, loin de là. Puis on est dans ce monde un petit peu protégé, qui est effectivement celui du château, mais où néanmoins brille quelque chose que personne ne pourra nous enlever, même dans la défaite, allais-je dire, c'est l'esprit français. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on est dans cet esprit français, car il faut aussi revenir à la pièce et au fait que c'est une véritable pièce brillante.
C'est-à-dire merci.
Brillante, mais pas, quand je dis brillante, par les répliques, par le ton, et qui est quelque chose qui n'appartient probablement, je pense, qu'à la France.
Peut-être que je suis déplorablement français. Voilà. Alors quand quand certains idiots en Corse me parlent d'indépendance, je meurs de rire. Enfin, nous avons la chance d'appartenir à un pays d'une très grande culture. Enfin, si vous y songez, si vous pensez au XXe siècle, vous noterez l'abondance de talents littéraires qui vont de Saint-Jean-Perse à Supervielle, en passant par Ionesco, Monterland, Mauriac, enfin tout le monde a du talent, beaucoup ont de talent. Des jeunes à la Rimbaud comme Olivier Laronde, enfin, des auteurs dits du second rang, mais qui n'en sont pas moins mauvais comme Henri Calais, enfin, etc. Je ne sais pas si le 21e siècle nous réservera autant de géniales surprises que le 20e nous en a donné.
Pourquoi cette période ? Hein ? À votre avis, pourquoi ? Pourquoi le 20e en condense autant ?
Je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des siècles d'or, et puis ensuite...
Bon, mais il doit bien y avoir un facteur, je ne dis pas une recette, mais enfin, une conjonction d'alignement d'astres qui...
Je ne sais pas, est-ce que c'est une affaire d'alignement d'astres ? Est-ce que c'est une affaire... Je ne sais pas, mais le XXe siècle me paraît d'une richesse supérieure à celle du XIXe, si l'on accepte évidemment ce que j'appelle les Annapurna du roman, Balzac, Barbey d'Aurevilly... Le divin Flaubert, que je mets au-dessus de tous, Stendhal, qui d'ailleurs dans leur jeu noir ferait bien de couper le chapitre de la maréchale de Fervaques, qui ne sert strictement à rien. Mais bon, passons. Pardon d'avoir l'air de donner une leçon à Stendhal. Mais dans ce chapitre, il oublie sa vitesse. Bon, c'est bon, on peut être indulgent à l'égard du génie, bien sûr. Malgré cela, malgré ses majestés, ses rois, ses reines, je crois que le XXe siècle, Aragon, les surréalistes, Léoto, dans son genre plat, sans relief, mais intéressant quand même, écoutez, c'est une rafle au bois de Boulogne rapporterait moins de personnes, si j'ose dire, par une nuit particulièrement chaude. Je suis ébloui par la richesse de la littérature française au siècle précédent.
Puisque nous en sommes aux références littéraires, la comtesse, elle n'a pas quelque chose un peu de la marquise de Merteuil aussi La comtesse, elle n'a pas quelque chose de la marquise de Merteuil aussi, puisqu'on en est aux références littéraires ?
Oui, bien sûr, bien entendu.
Dans son machiavélisme.
Oui. Là encore, un cynisme de classe, enfin, etc. Et peut-être une connaissance, au fond, assez exacte de la nature humaine.
Oui, car on l'a dit, elle est assez désabusée, elle porte un regard très froid sur l'amour, ça on l'a compris, elle avait raison, mais également sur l'amitié, également sur des sentiments qui n'ont rien à voir là au rapport entre les êtres humains, mais simplement l'avarice, le goût de l'argent, et ce sont tout un tas de filins qu'elle agite, comme ça, sur lesquels elle tire pour manœuvrer les uns et les autres avec...
Maestria.
Avec beaucoup de maestria.
Ah oui, oui. Bah,
mais c'en est réjouissant, tellement c'est scandaleux.
Ah oui, oui. Ah, mais au fond, je suis très enfantin tout d'un coup. J'avoue que j'ai bien aimé ma comtesse. Avec tous ses défauts, et que j'en ai profité pour la loger en Touraine, qui est une région de France que j'adore, etc. Voilà. Est-ce que je n'aurais pas eu, moi aussi, une nostalgie de château ?
Mais tout français, une nostalgie de château, non ?
Hein ?
Tout français, une petite nostalgie de château.
Je n'ai même pas de château, mais je ne me vois pas, sauf cas de forte force majeure, quitter Paris. Je me rappelle toujours le mot de Cioran que vous connaissez certainement. « A-t-on faire de rater sa vie, mieux vaut que ce soit à Paris plutôt qu'ailleurs.
» Oui, cela dit, la vie a l'air assez douce dans cette gentilhommière.
Hein ?
dans cette gentilmaire de Touraine. La vie a l'air assez douce, somme toute, finalement.
Oui, oui.
Si on est entouré de gens qui ont un esprit aussi, aussi vif que la comtesse, on pourrait passer des soirées entières à l'écouter, d'ailleurs, prendre du plaisir à la lire. Oui, parce qu'il y a un déséquilibre total dans le livre, c'est qu'elle elle tient le crachoir à peu près tout le temps, et avec des ressacs. On sent que c'est une femme sensible, parce qu'elle développe une idée, elle passe à une autre, elle revient à l'idée précédente, et puis ça fait ressac comme ça. Là, on retrouve, même si c'est évidemment très différent dans la façon de construire que vos romans, mais on retrouve cette façon où les idées, les souvenirs, éventuellement les amertumes et les blessures...
Les amertumes, les blessures...
reviennent, sont abandonnés, puis on les retravaille, on les réinsère dans l'idée suivante, et puis on progresse comme ça dans les méandres du cerveau de cette femme. Et nous aussi, on l'aime à la fin. Et on l'aime, c'est terrible, parce qu'on l'aime presque pour ses défauts. On a envie qu'elle soit un peu méchante et vacharde. Sinon, elle serait fade.
Elle nous venge un peu.
Bah oui, elle nous venge tous un peu.
Elle nous venge un peu.
Oui, puis c'est terrible, les bons mots sont toujours meilleurs quand ils sont méchants. Hein.
Les
bons mots sont meilleurs quand ils sont méchants.
Et on dit méchant.
Mais c'est pas méchant âcre.
C'est pas méchant.
Il vise juste.
Parfois juste. Je peux faire lucidité à méchanceté.
Mais quand vous avez cité Cioran, d'ailleurs, il y a un peu de Cioran aussi dans cette femme.
Parce que oui. Oui, bien sûr. Mais on rejoint tous les meilleurs dans nos meilleurs moments. Hein. Je le crois. Hein. Voilà. Moments qui, hélas, chez nous deviennent rares ou sont rares. Enfin, quelquefois, par accident, peut-être.
Vous avez rencontré des personnages tels que cette femme ou c'est une composition purement littéraire? Vous avez pu croiser des gens de cette trempe?
Oh,
on les croise dans les livres ou...
Des gens de cette trempe. Je dirais qu'il me faudrait composer un puzzle, vous voyez, de gens différents qui ont de la comtesse ceci, un autre de la comtesse cela, etc. Je crois. Hein, laissez-moi aussi le plaisir de l'invention.
Entendu. Nous parlions de l'esprit français tout à l'heure. Il y a plusieurs passages où vous comparez la façon britannique de faire du théâtre avec simplement, c'est présent d'ailleurs aussi dans l'œuvre, avec simplement une petite allusion, le simple fait de refuser, je ne sais plus l'image exacte, mais enfin comme si refuser un brandy permettait de découvrir les conflits qui animent une famille depuis des siècles.
Oui.
L'esprit français ne fonctionne pas exactement comme cela.
Oui.
Est-ce que vous pouvez le caractériser, cette façon française d'avoir de l'esprit et de faire passer des messages?
Les Britanniques savent faire cela, c'est-à-dire cette espèce de recul. Enfin, c'est très apparent dans les romans de Yevgeny Compton Burnett, etc., où autour d'une tasse de thé, plusieurs convives, plusieurs invités des différents autres, se livrent avec des mots feutrés, un véritable jeu de massacre. Mais c'est pas français. Je dirais, chez Pinter aussi, hein, mais d'une façon plus théâtrale, bien sûr. Un peu plus évidente, forcément, que dans le roman. C'est une spécialité anglaise, comme le pudding. J'aime pas le pudding, d'ailleurs. C'est une offense à la gastronomie.
La pièce, ensuite, parce qu'on en a des considérations sur le théâtre, bascule. Bascule dans une sorte de mise en abîme, un peu... Pirandellienne.
Oui, Pirandellienne, oui.
Puisque l'intrigue elle-même se termine de la façon dont elle se termine, hein, je ne veux pas tout dire, mais enfin, la comtesse est victorieuse, bien sûr, parce qu'elle est toute puissante. Mais par la suite, la pièce continue, puisqu'on assiste au. Un mot anglais que je vais utiliser, désolé, le débriefing des acteurs.
Oui.
Et on découvre qu'eux aussi, finalement. font face à des petites jalousies, des petites coucheries, des piques qui ne sont pas moins brillantes que celles de la comtesse.
Je vous remercie. et qui sont terriblement contemporains, je crois, et humains, quoi, etc. Avec tous les problèmes qu'ont les acteurs, catégorie de gens héroïques, mais qui, au fond, ne font que dire les mots des autres, si vous y pensez.
Oui, mais pas là, justement. Enfin, ouais. C'est un artifice, mais...
Oui, disent les mots des autres, et souvent, ça leur donne, par exemple, l'importance que, dans la société, qu'un auteur de prose n'a pas, enfin, etc. Ou qu'un poète, catégorie infortunée entre toutes.
Aujourd'hui, oui, sans aucun doute. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en tout cas, sans aucun doute.
Les poètes s'entrelisent. Hein. Nous, à l'Académie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour donner des prix, pour révéler des auteurs qui ne sont pas du grand public, enfin bref. Mais les acteurs, nous ne pouvons donner que le grand prix du théâtre, là encore, nous récompensons des mots.
Dans cette dernière partie de la pièce, vous avez quelques jugements assez rudes sur le théâtre aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Vous glissez quelques pics
sur la
création théâtrale aujourd'hui. Comment la voyez-vous, les créations théâtrales contemporaines?
Écoutez, je suis cerné par les théâtres dans mon quartier. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salles. C'est pour dire que je suis accablé par 8, en comptant le Déjazé, mais qui est un peu plus loin. Je suis accablé par la nullité des pièces que l'on met à l'affiche, ce qui ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est la file d'attente qu'il y a pour voir ce théâtre. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Je crois, enfin, etc. Nous n'en sommes pas. Mais quelquefois, je pense à une pièce... je ne vous dirai pas le théâtre, je veux dire que nous sommes au bord du pétomane du Pont-Neuf, sous le 16e siècle. Les mêmes vieux ressorts, les mêmes calçonnades reviennent, etc. Mais de temps en temps, j'ai constaté que le Tartuffe avec Bouquet, qui n'avait pas l'âge du rôle, bien sûr. Mais enfin, c'était Bouquet, un auteur extraordinaire, a quand même tenu très longtemps. Alors, il y a, comme dans le roman, des ficelles qui durent, des ficelles éprouvées, des ficelles qui satisfont les gens. Et puis, de temps en temps, je ne sais pas, moi... Un Jean-Marie Bisset, un Antoine Roux, enfin, émerge. Et parfois, on a du succès. C'est du succès qui est une chose absolument mystérieuse, comme vous le savez. On est sûr que quand c'est mauvais, ça aura du succès, quand c'est vulgaire aussi. Mais, de temps en temps, on ne peut même pas être compté sur le mauvais goût du public. De temps en temps, il a des défaillances.
Donc la démagogie ne paye pas toujours, alors.
Hein?
La démagogie ne paye pas toujours, même en théâtre.
Même au théâtre. De temps en temps, tout d'un coup... une pièce fine, amusante... audacieuse, économe, faisant appel à l'intelligence des sous-entendus, un succès. Voilà. C'est un peu consolant quand même.
On a besoin de consolation, vous savez.
Hein?
On en a besoin des consolations.
Oui. Ah, non. Je dis toujours que notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
C'est écrit dans la pièce même.
Oui. Je le dis à dessein.
Alors justement, puisqu'il s'agit d'une pièce et que nous parlions théâtre, aurons-nous un jour la chance de voir cette pièce sur les planches
Le mot chance convient très bien conviendrait aussi le terme de loterie. Alors, tantôt vous avez le théâtre, mais pas l'actrice. Tantôt vous avez l'actrice, pas le théâtre. Et tantôt vous avez le producteur, mais ni le théâtre ni l'actrice. Alors c'est un jeu qui fait que il vous manque toujours une carte. Alors je ne sais pas. J'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir à l'écrire, c'est-à-dire à changer aussi. Et puis, peut-être devrais-je me contenter de ça. J'ai la faiblesse de croire que quand même, il pourrait y avoir un petit public pour ça. Très modeste, enfin. Il y a des rôles de femmes, deux rôles de femmes qui pourraient intéresser des actrices, enfin, mais les actrices lisent-elles, enfin, j'en sais trop rien. J'ai beau avoir baigné dans les eaux du journalisme, donc en fréquentant les chroniqueurs de théâtre, etc., le théâtre est un monde que je ne connais qu'à travers la lecture des pièces que j'ai toujours pratiquées. Je n'ai jamais vu une représentation d'Ibsen, mais je connais le théâtre d'Ibsen. Je n'ai jamais vu une représentation de Strindberg, mais j'ai le théâtre de Strindberg. Ce qui est très agréable, parce que vous faites à vous tout seul la mise en scène, la distribution, les décors, enfin, etc. Jeu enfantin, mais qui m'a toujours plu. Alors quelqu'un m'a dit « Ah !» Mais Jacqueline Maillot est morte. Alors je dis, hélas, oui, mais elle aurait pu faire la comtesse. Et on continue. Mais c'est un rôle pour Marguerite Moreno. Mais elle est morte. Eh oui. Écoutez, si je dois envisager une représentation au Père Lachaise, je m'y refuse absolument.
En tout cas, nous n'avons pas de notre côté vu encore de la pièce d'Angelo Rinaldi au théâtre, mais nous avons la chance de pouvoir la voir dans notre bibliothèque. Et c'est une pièce qui se lit très très bien, car comme je dis, elle est très littéraire, les mots y ont une place prépondérante, oui. Donc cela se lit extrêmement bien, sans même avoir besoin d'ailleurs d'un théâtre, on peut la goûter parfaitement.
Ouais, elle a. Et les droits d'auteur bénéficieront aux descendants de mes chats qui les convertiront en croquettes, mais des croquettes à l'américaine et de grand prix.
Mais écoutez, raison de plus pour se procurer cet ouvrage dont je redonne les références. Laissez-moi vous aimer par Angelo Rinaldi de l'Académie française. C'est chez Pierre-Guillaume Deroux, jeune et brillant éditeur.
Oui, à qui je dis merci.
Nous vous disons merci aussi.